Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Aujourd'hui, en écho aux terribles tremblements de terre qui ont eu lieu ces dernières semaines en Turquie et en Syrie, nous revenons sur la notion de risque naturel et sur la manière d'adapter nos villes.
La Turquie se trouve malheureusement en pleine zone sismique méditerranéenne, cela veut dire dans la zone orogénique alpine. Nous avons toujours, et nous avons eu toujours dans notre histoire, de très grands séismes. On voit bien que depuis l'ère de Jésus-Christ, toute la Turquie a bougé et on peut dire qu'aucune pierre de Turquie n'est restée tranquille jusqu'à présent.
On l'entend dans cette archive d'octobre 1954, la Turquie a connu de nombreux tremblements de terre dans son histoire. Ça n'est pas bien étonnant, la terre tremble depuis bien avant que les humains ne la peuplent. Ce qui nous conduit même à nous interroger sur ce terme de risque naturel. Ne faudrait-il pas plutôt parler de risque humain et de mauvaise anticipation de ces risques? Car si depuis 1994 et la conférence de Yokohama, la réduction de la vulnérabilité urbaine a été érigée en objectif prioritaire, on ne constate pas malheureusement de résultats très probants pour l'instant.
France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
On va donc réfléchir sur ce sujet des catastrophes autour des séismes, mais également dans une seconde partie de cette émission avec l'exemple des inondations, car mon invité de ce soir a consacré un livre à la crue de 1910 sous le titre « Paris coule-t-il ?», publié chez Fayard en 2012. Il s'agit de la géographe Magali Regezazit, enseignante à l'ENS, membre du Haut Conseil pour le Climat, également autrice de l'ouvrage « Des hommes et des risques, menaces locales, menaces globales » paru à la documentation française en 2016.
Des flèches, un plan, des ronds et des points, c'est la carte introductive.
Bonsoir Magali Regezazit.
Bonsoir.
Sur la carte que vous nous avez transmise et qui est visible sur le site de l'émission, on peut voir la localisation et l'intensité des différents séismes survenus en Turquie depuis 2000. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer en choisissant cette carte pour nous ?
C'est tout le paradoxe d'un risque, ou plus exactement d'un aléa, d'un phénomène physique qui est connu.
Quelle différence entre le risque et
l'aléa ?
Alors
justement, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que l'aléa, c'est vraiment le phénomène physique qui en soi n'est ni bon ni mauvais, mais qui va se transformer d'abord en menace si des hommes, des maisons, des écosystèmes, des infrastructures, des bâtiments, des activités sont exposées et si elles sont ce qu'on appelle vulnérables, c'est-à-dire si elles vont être sensibles à cette menace. Et ce qui est très intéressant sur cette carte, c'est qu'on voit, comme aujourd'hui dans beaucoup de cas, que non seulement les séismes sont documentés historiquement, qu'on a aujourd'hui des archives et un travail très précis de reconstitution des séismes historiques qui permettent de connaître la sismicité d'une région, qu'on sait aujourd'hui cartographier les failles sismiques sur lesquelles vont se produire ces tremblements de terre, qu'on est aussi capable aujourd'hui, grâce à un progrès énorme des technologies d'observation, de mesure, de veille, d'alerte, de savoir par exemple si de l'énergie s'accumule sur une faille qui fait qu'elle va à un moment lâcher. Donc on est capable aujourd'hui d'établir des probabilités, ça ne veut pas dire qu'on va dire quand exactement, mais on sait qu'à un moment ça va arriver. Malgré tout ça, malgré le fait qu'on est même capable aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle des alertes précoces, c'est-à-dire vraiment d'envoyer quelques secondes avant le séisme.
Quelques secondes, c'est pas très suffisant.
Alors c'est énorme. Quelques secondes, ça veut dire par exemple qu'on va pouvoir arrêter. Imaginez, vous êtes en train d'opérer, on va couper le courant pour que, au moment où ça tremble, la main justement ne tremble pas. On peut couper par exemple le courant sur une centrale nucléaire, sur un ascenseur. Donc ces quelques secondes, elles peuvent être extrêmement précieuses dans nos sociétés contemporaines. Donc on arrive vraiment aujourd'hui à avoir des instruments qui... Voilà, un progrès technologique tel qu'on connaît le risque. On connaît non seulement l'aléa, mais on connaît aussi où sont les gens, où sont les bêtes, où sont les infrastructures qu'on appelle critiques. Et malgré cela, on a encore des catastrophes avec aujourd'hui, hein, sur ce séisme, au moins 50 000 victimes. On connaît en réalité jamais réellement le nombre de victimes parce qu'il faut considérer la surmortalité, les blessés, les vies détruites, les traumatismes. Donc ce sont en fait des ondes de choc. D'ici quelques mois, on n'en parlera plus. Il faut être honnête. Hein. Qui se souvient par exemple qu'en 2010, un séisme a ravagé Haïti en janvier, à peu près analogue ce séisme avec Port-au-Prince par terre.
On s'en souvient Un petit peu quand même. C'est vrai qu'à l'époque et pendant plusieurs semaines, on en avait parlé. Il y avait eu un certain nombre d'émissions, d'ailleurs, de Radio France. Je me souviens que beaucoup d'équipes étaient allées là-bas. Mais vous avez raison, on oublie rapidement.
On oublie rapidement. Qui se souvient? Alors, l'Aquila, évidemment un peu plus proche de nous. Mais qui se souvient, par exemple, en Turquie, ce séisme en 99, à İzmit, l'ancienne Smyrne. Qui se souvient du séisme de Bam. On a encore en mémoire la catastrophe de Fukushima. En réalité, la catastrophe de Fukushima, qui est cet accident nucléaire. Avant cela, il y a un séisme dans la région de Sendai, du Tohoku, qui est suivi d'un tsunami. D'ailleurs, ce séisme est beaucoup plus important en termes d'énergie que celui qu'on a connu il y a quelques semaines. Et vous voyez, donc on a cette longue série de séismes, on a cette longue série d'améliorations du bâti. On voit d'ailleurs, quand on compare ce qui se passe en Turquie et ce qui s'est passé au Japon, on a un signe bien plus important. Je vous l'ai dit, on est au-delà de 9 sur cette échelle ouverte de Richter. Aujourd'hui, on parlerait de moments de magnitude, peu importe. Mais on a un signe extrêmement puissant. Et quand vous regardez les vidéos avant l'arrivée de la vague, il y a quelques fissures. Mmh. Alors, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas eu peur. Mais vous voyez, on est dans une situation où, finalement, il y a ce paradoxe.
Donc, on apprend quand même de nos erreurs, ou en tout cas, on apprend du manque d'anticipation du passé. Est-ce que, par exemple, les tsunamis, aujourd'hui au Japon, sont mieux anticipés? Est-ce que un tsunami du même type que celui de Fukushima aurait des conséquences moins graves selon vous?
Alors il y a deux réponses à faire qui sont un petit peu différentes. D'abord, effectivement, si on regarde l'histoire des catastrophes, on voit quand même qu'on a une diminution progressive de la mortalité, en tout cas dans les pays dits développés, et que généralement vous avez d'un côté une augmentation des pertes économiques et des dommages dans ces pays dits riches, et qu'en revanche dans les pays en voie de développement, voire les pays très pauvres, vous avez toujours énormément de pertes humaines, soit directes, soit indirectes, non pas du fait des épidémies. En général, il n'y a pas d'épidémie, et sur Haïti, l'épidémie n'est pas créée par le séisme, elle arrive plus tard pour d'autres raisons, mais en revanche, vous avez effectivement une surmortalité qui va suivre, parce que derrière, il va y avoir des difficultés économiques, des difficultés politiques, quand ce sont des grandes catastrophes. Si maintenant on prend le cas du Japon, c'est intéressant parce que sur le Japon, il y a cette idée que la culture du risque, notamment du risque sismique, est un modèle au Japon. Vous avez Kobe en 95. Kobe, c'est un séisme qui va avoir un effet terrible parce qu'il y a des incendies qui vont se produire suite au séisme, mais il y a une défaillance assez importante du système de gestion de crise. Kobe, c'est 5000 morts. Et quand vous arrivez à Sendai Tohoku en 2011, effectivement, des leçons ont été tirées. Et là, on arrive à nouveau à un paradoxe, c'est que quand vous écoutez le directeur de la centrale, l'audition du directeur de la centrale de Fukushima, qu'on peut se procurer, la traduction a été publiée en France dans une version courte et très accessible, on voit qu'en fait, le tsunami était connu. Le risque de tsunami était connu,
un risque qui a été pris de façon consciente. Alors, par les autorités et par TEPCO.
C'est tout le sujet. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment conscient? Est-ce qu'on écarte le risque parce qu'on se dit c'est trop grand? Il y a des tas de mécanismes en réalité qui font que c'est pas si simple. Il n'y a pas d'un côté un déni du risque absolu, mais c'est pas parce qu'on connaît le risque, c'est pas parce qu'on en a la mémoire, c'est pas parce qu'on sait comment en partie résoudre le problème que ça va marcher le jour J. Voilà. Et donc, y a un autre exemple qui est très intéressant. Si vous regardez Mexico, par exemple, Mexico est dévasté par un tremblement de terre dans les années 80, qui permet d'ailleurs de comprendre que l'aléa n'est pas le seul responsable du séisme, parce que derrière, il y a des effets d'amplification des ondes, enfin, il y a tout une mécanique derrière qui arrive, et puis beaucoup de gens, de mauvais comportements, etc. Et vous voyez que les séismes qu'il y a eu à Mexico dans les dernières années ont fait très peu de victimes. Mmh. Parce que derrière, il y a eu toute une transformation de l'habitat, des exercices, des... Simplement, et ça c'est aussi le fruit d'un travail que j'ai pu mener avec des collègues dans les Antilles françaises, notamment en Guadeloupe, ce n'est pas parce que vous vivez régulièrement des séismes, et c'est le cas pour les habitants de la Guadeloupe, au pied de la Soufrière notamment, c'est un territoire qui tremble souvent, ce n'est pas parce que vous connaissez des séismes, ce n'est pas parce que vous connaissez le bon comportement, le mur maître, la table, etc., qu'au moment où ça va se passer, vous allez avoir ce bon comportement. Et pour avoir aussi interrogé et travaillé avec des gens qui ont connu le séisme de Sendai au Tohoku, ces personnes racontaient la situation de stupéfaction, de stupeur, les cris dans la salle. Et à un moment, ce séisme est tellement fort par rapport à ce que les Japonais connaissent pas au quotidien, mais quasiment, qu'il y a cet effet de sidération qui fait qu'on n'a pas les bons comportements.
Donc vous dites un peu les deux choses à la fois, Magali Reguedzazit. À la fois, on apprend effectivement des catastrophes, et en même temps, on ne pourra jamais accéder à un risque qui serait un risque zéro. Parce que quand la catastrophe arrive, quand par exemple le séisme arrive, on n'est pas dans des conditions émotionnelles et psychologiques qui nous permettent toujours de faire le bon geste et d'appliquer, au fond, la recette qu'on a apprise pour minimiser les conséquences.
Oui, puis il faut alors peut-être que parmi vos auditeurs, certains ont connu des séismes. Il faut quand même se rendre compte de ce que c'est. C'est-à-dire, on perd ses repères, on est un peu dans une situation... Il y a effectivement cette émotion, ça va très vite et en même temps, c'est très très long. C'est-à-dire que ce sont parfois 30 secondes, une minute, c'est très long.
Deux minutes, hein, dans le cas du premier tremblement de terre en Turquie.
En Turquie, c'est encore pire parce qu'en Turquie, ça se passe la nuit. Et là aussi, on voit que... Et là, il y a une anecdote historique que je peux raconter. Au 19e siècle, à Nice, il y a un séisme qui se passe à la fin du 19e siècle. On le connaît parce que Nietzsche l'a raconté. Ça se passe pendant le carnaval et le séisme arrive au moment où les gens... À l'époque, on va danser à carnaval. Notamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui le palais de la Méditerranée. Donc, il y a des grands bals. Et le séisme arrive au moment où les gens sortent, c'est-à-dire que les gens sont dans la rue. À une heure près, on aurait eu une catastrophe terrible sur ce territoire. En France, en France métropolitaine, on n'a pas de séisme énorme. On en a à Lambesque en 1906, de mémoire. Mais si vous voulez, on n'est pas un territoire qui a subi... Alors, si on remonte dans l'histoire, oui. Il y a eu des séismes importants.
Sur la Côte d'Azur ?
Alors, oui, on a effectivement la Méditerranée qui est très propice au séisme. On a évidemment les Outre-mer, avec aussi la question du volcanisme lié. On a l'Alsace, le fossé rhénan. Et puis, on en a quelques-uns dans les Pyrénées. Mais c'est vrai que ce séisme de Lambesque, finalement, en Provence, a vraiment marqué les esprits. Il y a eu aussi des séismes importants en Manosque, notamment. Et des historiens et des archéologues ont cherché à les reconstituer à partir des maisons. Puisqu'en fait, dans les maisons, les traces sont conservées. Et donc, quand vous regardez les photos, vous dites, bah, tiens, c'est des vieilles maisons. Tiens, c'est bizarre, ici, la fenêtre est un peu cassée, ici, telle pierre est un peu fendue. En réalité, ce sont des traces du séisme et des traces de la reconstruction.
Donc, des pierres qui ont été réutilisées alors qu'elles avaient été fendues pendant un séisme.
Ça peut être réutilisé, ça peut être la maison a été reconstruite, ça peut être... Donc, vous avez aussi des collègues qui ont travaillé sur vraiment, dans le paysage, la lecture, en fait, historique. Pourquoi ? Parce que, là aussi, le séisme, vous ne pouvez pas, a posteriori, le refaire, sauf si vous regardez les dommages. En fait, vous percevez le séisme à partir de la catastrophe et des dommages qu'il a causés. Et c'est bien aussi une différence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de mesurer par les sismographes les séismes et de regarder quelle est l'énergie libérée. Dans le cas des séismes historiques, la seule chose qu'on peut faire, entre guillemets, c'est de regarder les dommages, avec la question, est-ce que ces dommages ont été faits parce que l'aléa était très fort, ou est-ce que ces dommages viennent du fait que la société était très fragile ?
Alors la société comprend évidemment une dimension politique, c'est très important dans le cas de la Turquie, avec le président Erdogan, dont on dit qu'il a géré la crise de façon peu habile, pour le moins, et que depuis des années, il n'a pas préparé le pays, voire même... il a fait des choses contre-productives et que tout cela a entraîné ces 50 000 morts. Comment faire la part des choses entre, au fond, l'aléa et puis la politique qu'est-ce que finalement on aurait pu éviter avec un autre type de gouvernement en Turquie et en Syrie aussi probablement, puisque la question se pose également, Magali Reguedzazit.
Alors, il y a plusieurs réponses parce qu'effectivement, il y a une dimension politique dans la gestion de crise et en amont dans la prévention de ce qu'on appelle les risques de catastrophe. Puisqu'un aléa ne donne pas forcément une crise et une crise ne donne pas forcément une catastrophe. La Terre peut trembler, ça ne fait pas de dommages et tout se passe bien. Pourquoi je dis qu'il y a une dimension politique ? Parce que d'abord, dans certains cas, effectivement, l'inaction, la non-prise de décision est un choix. Et c'est un choix qui peut être dicté par un certain nombre de motifs. On a par exemple vu le Kurdistan dans ce séisme, le Kurdistan en fait, où certaines régions d'ailleurs de qui ont été frappés, où les secours arrivent plus tard. Il y a des choix qui sont liés à des minorités opprimées, à des territoires qui peuvent être en lutte. Enfin bon, il y a des territoires qui peuvent être en rébellion. Souvent, d'ailleurs, ça se passe dans ces zones frontières, parce que les zones frontières, ce sont des zones ici montagneuses, dont des zones de marche qui sont parfois moins faciles à contrôler par le pouvoir central. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi dans la catastrophe et l'après-catastrophe un récit qui va se construire, qui est un récit de légitimation du pouvoir. Mmh. Pourquoi ? Parce que dans les États modernes, mais aussi prémodernes, le lien entre le gouvernement et les sujets ou les citoyens se fait sur la garantie de sécurité. Quelles que soient les époques et quels que soient les pays, quels que soient les régimes, la sécurité fait vraiment partie des prérogatives régaliennes. Vous acceptez à un moment donné de vivre en société parce que un pouvoir vous garantit cette sécurité. Et donc la vacance du pouvoir est quelque chose d'absolument terrible qui en fait rompt le pacte social. Et c'est pour ça que vous avez historiquement, dans les sociétés prémodernes ou modernes, et évidemment contemporaines, une mise en scène du pouvoir qui va en fait se réaffirmer à travers la gestion de crise. Il y a toute une mise en scène, presque une scénographie, où on va voir, alors soit ça va être une procession, soit ça va être une visite sur le terrain, ça va être des reportages. Aujourd'hui, c'est un tweet qui montre en fait le pouvoir en action pour protéger. Au Moyen-Âge, vous aviez la Vierge de la Miséricorde qui accueillait dans son manteau les pêcheurs et la société civile, comme on dirait aujourd'hui, pour la protéger de la peste, par exemple. Et bien aujourd'hui, vous avez le président ou les ministres qui viennent et qui se déplacent. Alors d'ailleurs, c'est un peu... d'un point de vue opérationnel, c'est absurde. C'est-à-dire que vous faites déplacer quelqu'un, ce qui demande beaucoup de services de secours, qui demande beaucoup de services policiers, etc., qui ont peu de choses à faire en période de catastrophe. Mais c'est vraiment très important. Et dans le cas, effectivement, du président Erdogan, il y a cette idée qu'il n'était pas là. Alors, souvent, on l'a reproché, dans d'autres types de catastrophes. On va le reprocher à George Bush pour Katrina. On a pu le reprocher aussi à des ministres en France suite à d'autres catastrophes. Il y a aussi un cas particulier qui ne s'est pas produit en Turquie, mais qui va se produire à Haïti, c'est quand le pouvoir lui-même est touché. Mmh. C'est-à-dire, là, Haïti, c'est Port-au-Prince, le palais présidentiel s'effondre, des ministres sont tués dans l'effondrement des bâtiments. Et donc tout ça, si vous voulez, fait aussi qu'il y a à un moment donné une dimension presque, enfin politique au sens symbolique, qui va s'installer.
Il y a le symbole et puis il y a les choses qui n'ont pas été faites et on reproche à Erdogan précisément de ne pas avoir mis en place ce qu'il avait dit d'ailleurs qu'il ferait au séisme précédent qu'il a porté au pouvoir, un certain nombre de normes antisismiques effectives. Donc là, en l'occurrence, il s'agit vraiment plus que de l'aléa, il s'agit de la mauvaise gestion humaine, Magali Rikzazi.
C'est-à-dire que quand vous avez... Pour faire un risque, il faut trois ingrédients. Il faut cet aléa, qui peut être plus ou moins intense. Il faut une exposition. Et donc, aujourd'hui, effectivement, mais ce n'est pas d'ailleurs d'aujourd'hui, il y a souvent des concentrations de population sur des zones qui peuvent être des zones sismiques. Soit parce qu'elles n'étaient pas identifiées, soit parce que finalement, on a reconstruit parce qu'il y avait d'autres intérêts à se trouver là. Et pour contrer cette exposition dans le cas des séismes, on a effectivement plusieurs options. La première, c'est la construction parasismique.
Qui est efficace.
Qui est très efficace. Qui est très efficace. Alors,
aujourd'hui, on sait faire, ça coûte pas trop cher.
Alors, on sait faire, ça coûte un peu plus cher. Le principe d'une construction parasismique, c'est pas forcément que ça ne s'effondre pas, mais c'est que ça ne vous tue pas. Là aussi, c'est intéressant, les archéologues ont montré qu'il existe des techniques de construction prémodernes qui sont en réalité parasismiques. Alors ça peut être par exemple la manière dont vous allez écarter les bâtiments pour qu'ils ne se tombent pas les uns sur les autres. On a des collègues archéologues qui travaillent à Grenoble, notamment dans une équipe qui s'appelle Cratère, qui ont démontré à propos de BAM, quand vous regardez la ville de BAM, elle est connue pour ses briques crues, pour ses constructions en briques crues.
C'est une ville en Iran.
C'est une ville en Iran qui a été dévastée par un séisme absolument terrible. Les victimes, les morts, étaient dans les bâtiments qui dataient des années 80, qui se sont effondrés et qui ont tué les personnes. Alors que dans les bâtiments en briques crues, c'était par terre, mais ça n'a pas tué. Donc si vous voulez, on retrouve, y compris en Crète, y compris dans les villages, en fait dans les villes de Méditerranée, on retrouverait ça aussi d'ailleurs en Amérique latine, qui sont aussi des zones extrêmement sismiques, des formes de construction. Alors évidemment, ça marche par essai-erreur. bien sûr. Et notamment, il y a des textes intéressants qui, sur l'Amérique latine, où donc il y a des séismes en permanence. Et les Espagnols étudient ces séismes et ils se rendent compte que dans les régions d'Espagne où il n'y a pas de séisme, il y a des puits. Mmh. Et donc ils se disent, c'est à cause des tourbillons. Et les puits permettent d'évacuer les tourbillons. Donc vous voyez, là aussi l'idée que les sociétés prémodernes étaient passives face aux risques, c'est complètement faux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une panoplie de systèmes d'alerte précoce, de systèmes de surveillance et surtout de ces systèmes de construction parasismique, qui, redoublés par des exercices de préparation, vont permettre de limiter les dommages.
Alors, dans l'histoire, ça n'a tout de même pas toujours suffi à sauver les villes de séismes qui se sont ensuite transformées en incendies et en tsunamis, comme à Lisbonne en 1755.
Ô malheureux mortel, ô terre déplorable, ô de tous les mortels assemblage effroyable, d'inutile douleur, éternel entretien. Philosophe trompé, qui criait « Tout est bien ». Accourez, contemplez ces ruines affreuses, ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses, ces femmes, ces enfants, l'un sur l'autre entassés, sous ces marbres rompus, ces membres dispersés. 100 000 infortunés que la terre dévore, qui, sanglants, déchirés et palpitants encore, enterrés sous leur toit, terminent sans secours, dans l'horreur des tourments, leur lamentable jour. Aux cris demi-formés de leurs voix expirantes, au spectacle effrayant de leurs cendres fumantes, direz-vous, c'est l'effet des éternelles lois qui, d'un Dieu libre et bon, nécessite le choix? Direz-vous, en voyant cet amas de victimes, Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leur crime? Quel crime? Quelle faute ont commis ces enfants sur le sein maternel écrasé et sanglant? Lisbonne, qui n'est plus, eut-elle plus de vice que Londres, que Paris, plongée dans les délices? Lisbonne est abîmée, et l'on danse à Paris. Tranquilles spectateurs, intrépides esprits, de vos frères mourants contemplant les naufrages, vous recherchez en paix les causes des orages. Mais du sort ennemi, quand vous sentez les coups, devenus plus humains, vous pleurez comme nous.
Géographie à la carte que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons de la notion de risque et de risque naturel avec Magali Reguezazit. À l'instant, c'était une archive d'une lecture par Laurent Lemire de la première partie donc de ce poème célèbre sur le tremblement de terre de Lisbonne par Voltaire. Qu'est-ce que vous en retenez en tant que géographe et aussi peut-être du point de vue de l'historienne que vous êtes forcément, puisque vous avez un regard sur la longue durée au sujet de ces risques naturels?
Alors c'est un texte qui a beaucoup marqué et surtout la controverse évidemment entre Voltaire et Rousseau. Voltaire a aussi parlé de ce séisme de Lisbonne dans Candide. Donc on a vraiment un événement, il faut imaginer, qui bouleverse complètement la société intellectuelle de l'époque. Alors évidemment aujourd'hui on aurait des polémiques en 280 signes sur Twitter. À l'époque, on s'écrit en alexandrin et la polémique en fait prend corps autour de la théodicée, c'est-à-dire si Dieu est bon, si tout est bien.
On peut pas laisser faire ça.
Voilà, on peut pas laisser faire ça. Et pendant très longtemps, on a regardé ça comme finalement le moment de cette controverse, comme la rupture dans la représentation du risque, c'est-à-dire une époque prémoderne dans laquelle le risque est finalement une œuvre de Dieu. Et de fait, dans certaines législations encore aujourd'hui, on a l'idée de « act of God ».
Donc si c'est Dieu qui fait trembler la terre, ça ne sert pas à grand-chose de se prémunir de cela. Or, on se rend compte que, et comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, Magali Reguezazit, il y a incorporé finalement une idée qu'il faut toujours faire attention aux éléments naturels, construire des digues. On construit des digues depuis la nuit des temps, et puis construire des maisons aussi qui, quand elles s'effondrent, ne tuent pas. Donc il y a quand même une prévention qui existe déjà,
il y a déjà une
bien
prévention,
avant ce
tremblement
de terre. Il y a déjà une gestion,
simplement, effectivement, au moment donc de ce tremblement de terre, il y a... Alors il faut rappeler d'abord qu'il se passe le 1er novembre. C'est la Toussaint. Et donc, il y a aussi cette date importante qui fait que on va discuter en fait de Dieu et du rôle de la métaphysique. Et donc Voltaire, effectivement, lui, est sur cette position de dire, mais enfin, quand vous dites que tout est bien, quel crime ont commis ces femmes et ces enfants ? Donc, on est vraiment dans la question de la morale, dans la question du vice, du péché. Et Rousseau, d'abord, répond en prose. Très important. Il répond pas du tout en alexandrin, il répond en prose avec une lettre dans laquelle, effectivement, il dit textuellement, quasiment, que s'il y avait eu au désert, convenez, hein, que s'il y avait eu ce séisme au désert, il se serait rien passé. Et c'est amusant parce que cette phrase a été reprise dans la législation française, enfin plus exactement dans les doctrines françaises de gestion des risques, pour dire justement un risque, enfin un séisme dans le désert, ça n'est pas un risque parce qu'il n'y a pas d'exposition et parce qu'il n'y a pas de vulnérabilité.
Donc c'est la question de la définition du risque. Qu'est-ce que c'est qu'un risque ?
Exactement. Et donc ça a été vu, et ça le reste, hein, comme un temps important de ce qu'on appelait la laïcisation du danger. Et cette laïcisation du danger, elle va permettre effectivement la mise en risque. Et la mise en risque, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment l'instrument que les modernes ont inventé pour maîtriser l'incertitude. Quand je dis maîtriser l'incertitude, c'est-à-dire qu'on va, d'un côté, par la science et le calcul de probabilité, essayer de donner une métrique, une mesure à l'aléa, qu'on va également regarder l'exposition et la valeur des biens exposés pour utiliser la rationalité économique et se poser la question de est-ce qu'il est rationnel ou pas de créer telle ou telle infrastructure de protection. Et pour faire les deux, on a besoin de l'État moderne qui garantit la sécurité. Donc vous avez l'État, le marché et la science et les techniques, qui vont permettre de prévenir les risques, d'où par parenthèse l'idée que quand on répète à loisir le risque zéro n'existe pas, certes, mais prévenir le risque, c'est bien dans l'idée le risque zéro, puisque quand vous prévenez, il n'y a plus. Et donc si vous voulez ensuite, vous allez avoir une gestion dite rationnelle de ce risque, qui va nous amener jusqu'à aujourd'hui avec cette technique actuaire qui permet par exemple de fixer les primes d'assurance, voyez, et surtout donc effectivement cette laïcisation du danger qui alors revient très régulièrement sur le tapis. Quand par exemple vous avez le grand tsunami de Banda Aceh, vous savez ce tsunami en Indonésie la veille de Noël, eh bien vous avez des associations, alors ce sont sur ce territoire c'est des musulmans, mais vous avez exactement la même chose avec des chrétiens fondamentalistes après Katrina, qui expliquent à chaque fois que c'est une punition divine. Et régulièrement, quand vous avez une catastrophe, vous avez des pouvoirs religieux ou des groupes religieux qui expliquent que c'est la faute de la déliquescence des mœurs, de tout ce que vous voulez, exactement ce que raconte Voltaire dans l'extrait que vous avez lu. Alors après, derrière, c'est quand même cette idée justement de maîtriser le risque pour sauver des vies humaines. Mmh. Et il faut quand même rappeler que ces séismes sont aujourd'hui c'est vraiment séisme et volcanisme, c'est les plus meurtriers. Si vous regardez en quantité, évidemment, comme il y a plus d'inondations, les inondations font beaucoup de morts, les canicules font beaucoup de morts. Mais les séismes, c'est là où vous avez vraiment des tragédies absolument épouvantables, parce qu'effectivement, là, ça, en deux minutes, des villes entières sont par terre. Et ce qui est aussi, alors, sur Lisbonne, ce qui est encore très intéressant, c'est qu'il y a le séisme, mais il y a aussi le tsunami qui va s'en suivre.
Et l'incendie.
Et vous avez exactement la même chose à Fukushima, par exemple.
Mais alors, on vit toujours à Lisbonne. Des tas de gens y vivent, joignent cette ville. C'est le cas également dans toutes les zones dont on sait qu'elles sont extrêmement dangereuses et extrêmement sismiques. Est-ce qu'il y a dans l'histoire l'exemple d'endroits où les catastrophes naturelles auraient fait fuir la population ? Ou est-ce qu'au fond, on finit toujours par se dire, et c'est bien normal, puisqu'une fois qu'une ville est là, c'est difficile de la déplacer, on reste là ?
Alors, il y a un formidable ouvrage d'un géographe, Alain Musset, qui parle des villes nomades, les villes nomades d'Amérique latine, et qui explique justement que dans ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire ce phénix qui renaît de ses cendres, en réalité, il y a plusieurs choses qui peuvent renaître. D'abord, il y a le nom. Et on va voir des villes qui se déplacent et qui gardent le même nom. Mm-hmm. Et donc, on se pousse de la flatte. Alors, par exemple, sur l'Amérique latine, ces villes de Colombes, elles sont détruites un coup par l'éruption volcanique, un coup par le séisme, on les déplace un peu plus loin. Et puis, ça recommence, puis on repousse. Ça peut être aussi, on va reconstruire, mais on va reconstruire en gardant des traces du passé. On prend Lisbonne, vous avez d'abord ces azulés roses que vous trouvez un peu partout dans la ville qui rappellent la catastrophe. Ce sont des images, hein, des dessins sur ces magnifiques carrelages, avec ce bleu en plus. Et puis vous avez le couvent des Carmes.
Le couvent des Carmes, qui est une église qui a été détruite justement pendant ce tremblement de terre.
Qui est une ruine à ciel ouvert.
Qui est toujours là.
Et là aussi, beaucoup de collègues géographes ont travaillé sur cette question de la ruine. Parce que la ruine, ça peut être une trace qu'on laisse mémorielle des victimes. Ça peut être aussi un élément de prévention. On vous rappelle qu'ici, s'est passé quelque chose. Vous avez aussi une esthétique. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, quand vous allez au couvent des Carmes à Lisbonne, c'est que les gens visitent l'église en pensant que c'est une ruine comme une autre. Ce marquage dans l'espace des catastrophes, il rappelle à nouveau cette question de la mémoire du risque. Et ce paradoxe, ce n'est pas parce que je me souviens d'une catastrophe, ce n'est pas parce que je sais qu'il existe un risque, ce n'est même pas parce que je suis informé des comportements à tenir que je vais faire ce qu'il faut.
Alors c'est la même problématique que celle que vous expliquiez un peu plus tôt dans l'émission, Magali Reguet-Zazit. Au fond, c'est un peu triste à entendre parce que on a le sentiment qu'il va être très difficile de faire en sorte que les risques soient réellement atténués à partir du moment où, même si on est conscient du risque, parce qu'on ne sait pas quand il va arriver. Si on savait qu'il arrivait dans 3 mois, évidemment, on plierait tous bagages devant le risque, mais on ne sait pas si ce sera dans 3 mois, dans 3 ans, dans 30 ans ou dans 300 ans. Et c'est ça qui pose sans doute des grandes difficultés quand on essaye de réduire les risques face à ces catastrophes naturelle.
Alors, ce que vous dites est intéressant parce que souvent, en réalité, on a l'impression qu'il y a une solution. Et la prévention des risques, ou la prévention plus exactement des risques de catastrophe, c'est une sorte de gigantesque orgue et il faut appuyer dans le bon ordre sur tous les boutons. Et on a beaucoup parlé de « on » dans notre discussion. Mais qui c'est le « on » ? C'est tout le monde, en réalité. Ça peut être les institutions, ça peut être les pouvoirs politiques ou religieux, ça peut être les administrations, ça peut être les pouvoirs locaux, ce sont les acteurs économiques, ce sont les artisans, les agriculteurs, les gestionnaires de réseaux, ce sont les habitants.
Il faut que tout le monde réfléchisse aux différents risques et que tout le monde s'y prépare le mieux possible.
Exactement. C'est une conjonction qui fait que des habitants ne peuvent pas vivre en permanence avec cette menace. En revanche, effectivement, on sait très bien que dès qu'il y a des exercices réguliers, ça peut aider. On a aussi la possibilité, ce parasismique, la manière de construire, pas simplement la maison, mais de construire les rues pour permettre l'évacuation. Chose très simple, avoir des places où se réfugier. On a vu au moment du séisme en Turquie, on le voit à chaque fois, où vont aller les gens. C'est-à-dire que si vous restez devant la maison, vous êtes sorti, déjà vous avez réussi à sortir, où vous allez. Mais il faut vous retrouver dans des espaces qui soient des espaces à l'air libre, parce que les répliques vont arriver forcément, et ça va tomber. Il y a aussi des progrès énormes qui ont été faits en matière de connaissances, et là je peux renvoyer un petit livre que moi je trouve remarquable, je le donne souvent à lire à mes étudiants, c'est l'ouvrage d'Éric Calais, qui est un sismologue, qui est un de mes collègues à l'ENS, et qui, entre guillemets, avait prévu le séisme de Haïti. En réalité, ils avaient prévu que sur la faille pourrait se produire, il y avait une forte probabilité qu'un séisme arrive. D'abord, il ne s'est pas produit exactement sur la faille, mais surtout, Eric raconte qu'il arrive devant le président haïtien, il lui dit « Oh, il y a un séisme qui va se produire ». Et le président lui dit « Vous êtes gentil, mais quand ?»« Il y a un séisme qui va se produire, 7.2, il y a un séisme !» Le président dit « Vous êtes gentil, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je ne peux pas évacuer tout Port-au-Prince et tout mon pays, donc qu'est-ce que je fais ? Je suis très content que vous ayez prévu ce séisme à 7.2, qu'est-ce que je fais ?» Et qu'est-ce que je fais a fortiori dans un pays qui est sous protection de l'ONU? D'ailleurs, le premier bâtiment qui s'effondre, c'est la MINUSTA, et c'est le chef de la MINUSTA qui est tué. Donc si vous voulez, on voit bien que là aussi, y a besoin de combiner un ensemble de leviers, y compris en gérant l'existant. Dans beaucoup de cas, vous avez un bâti ancien, qui n'est pas forcément adéquat. Dans certains cas, vous avez des populations qui ne sont pas forcément formés, là aussi. Puis vous êtes sur des zones de conflit, vous êtes sur des zones plus difficiles d'accès.
Donc tout ça... Donc un faisceau de mesures, en réalité, c'est ça qu'on peut prôner.
Il n'y a pas une bonne solution. Ce qui est rageant, en revanche, c'est qu'on sait que dans certains cas, typiquement sur la Turquie, ce séisme n'aurait pas pu être évité, mais cette catastrophe sismique aurait pu être évitée.
Je crois que c'est intéressant d'avoir une petite idée de ce qu'ont été les crues à Paris et de leur évolution, parce que ça commence bien avant l'institution des barrages réservoirs, bien avant la crue de 1910. Le problème des crues à Paris a été un problème de 1000 ans. Pendant 1000 ans, Paris a littéralement été submergé pratiquement tous les hivers. Pendant 1000 ans, pourquoi ? En 850, Charles le Chauve construit un pont aux piles extrêmement serrées pour interdire la remontée des Vikings. Et ce pont va rester pratiquement là pendant 1000 ans. Ce n'est qu'en 1856 que Haussmann va arracher toutes les infrastructures, les pilotis qui par milliers soutenaient ce pont, qui a formé un véritable barrage. Ce n'est que donc 1000 ans après qu'on a complètement nettoyé la Seine. Il n'y a pas qu'à Paris que ce phénomène s'est passé. Ce pont militaire était une véritable herse. C'était une herse fluviale. Et évidemment, même en période de débit normal et même en période d'étiage, vous aviez une véritable chute d'eau à cet endroit-là. Mais alors en période de crue, c'était catastrophique. Le pont lui-même était régulièrement submergé. C'est devenu ensuite le pont aux Meuniers. Mais en fait, c'est le même pont.
France Culture. Géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
C'était François Baudouin, le père de l'archéologie nautique fluviale, dans une émission de Simone Dweck qui date de 1995. On passe au cru, qui est aussi votre spécialité, Magali Regezazit. On va voir que vous avez fait votre thèse sur la crue centennale de 1910 à Paris. Un livre ensuite a été publié à partir de ce travail. Qu'est-ce que vous retenez de cette histoire du pont aux Meuniers qui a favorisé le débordement de la Seine à Paris, et ce durant des siècles sans qu'on y fasse rien?
Alors, Paris a une histoire très particulière avec son fleuve. Isabelle Bacouche en a parlé dans un ouvrage magnifique qui s'appelle La trace du fleuve. Les Parisiens connaissent, si vous allez au Panthéon, vous avez les fresques de Sainte-Geneviève. Il y a cette histoire des Normands qui arrivent. Elle est racontée par le chroniqueur Abon. Ça s'invente pas. Abon. Et donc, dans un impeccable latin de cuisine, il raconte l'invasion des Normands et puis la crue de la Seine qui arrive et qui les balaye tous. Donc effectivement, la Seine fait des morts très régulièrement l'hiver, notamment parce qu'on a ce qu'on appelle des crues d'embâcle. À l'époque, il fait froid, la Seine est prise par les glaces, et donc quand la crue arrive, il y en a des barrages qui se forment avec des glaces. Les ponts aussi sont occupés. Si vous regardez les gravures ou les chroniques de l'époque, on voit des ponts habités, un peu comme maisons. Le pont Évêque à Florence. Et donc évidemment, ces effets de barrage, ces effets d'embâcle font qu'à certains moments, vous avez des morts. Et il y a notamment la destruction du pont de l'Estacade, qui en pleine nuit, à nouveau en pleine nuit, la nuit est un moment de vulnérabilité tout à fait particulière, va inonder complètement avec une vague déferlante tout un quartier en tuant des gens. Et les dernières inondations meurtrières donc arrivent à peu près, dans mon souvenir, c'est au 19e siècle. Et puis vous avez une inondation qui est très connue, qui est celle de 1876. Et à l'époque, Mac Mahon vient avec son épouse. Et sur la cassette présidentielle, Madame vient visiter les nécessiteux et donne aux nécessiteux. Et on
toujours
revient
exactement. On revient le à ce pouvoir qu'on disait
tout à l'heure, c'est-à-dire le
scène.
Pouvoir politique qui est mis en scène. Et puis, à partir de ce moment-là, effectivement, des travaux vont être entrepris pour canaliser le fleuve, pour remonter les piles, pour remonter les ponts. Et au début du 19e siècle, du 20e siècle, on est juste au lendemain de l'exposition universelle. Paris, c'est le symbole de la modernité. Et quand on interroge les Parisiens, ils sont persuadés que la Seine ne débordera plus. Mmh. On a l'électricité, on a des becs de gaz, les premiers ascenseurs arrivent, il y a l'air comprimé. Donc c'est vraiment le symbole de la modernité. Et
donc il y a un sentiment de sécurité, mais qui est un peu un faux sentiment de sécurité.
Et 1910, la crue arrive.
Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette crue? Est-ce qu'il a vraiment énormément plu? Qu'est-ce qui fait qu'on l'a tous dans les mémoires?
Alors, c'est pas la plus grande, hein. On pense que, alors là aussi, c'est compliqué, parce qu'on a effectivement des chroniques qui nous parlent notamment d'une crue, en 1658, dans mon souvenir, qui semble avoir été plus haute, mais là aussi, il n'y a pas de système métrique, on sait pas bien comment c'est mesuré, voilà. 1910, il y a trois choses importantes. La première, c'est qu'il y a des cartes postales. Effectivement, il y a des photos. Et donc la crue est extrêmement photographiée. Ces photographies, ces cartes postales font le tour de France. Et on en retrouve encore aujourd'hui chez les bouquinistes, avec des scènes assez particulières. Parce que c'est la deuxième chose. On a des reporters qui, pour la première fois, vont avec leur appareil. Alors il faut imaginer, hein, c'est pas le numérique, c'est pas le portable. Et qui vont photographier des gens. Et quand vous voyez ces photos, je suis toujours fascinée quand je les regarde, parce que les gens posent. C'est la première fois qu'ils voient pour certains un appareil photo, donc c'est quelque chose. Donc ça a l'air presque sympathique. Et puis, vous avez des journaux à grand tirage, avec notamment des xylographies en bois. Et là aussi, quand on se penche sur c'est le petit journal, vous avez des images très patriotiques, parce que nous sommes à la veille de la Première Guerre mondiale, de la montée des périls. Et donc, il y a aussi tout un discours à nouveau du pouvoir autour de cette puissance et de cette solidarité française.
Mais alors, comment les Parisiens ont-ils vécu cette période et est-ce que les dégâts ont été très importants? Et puis là, on va commencer à faire un parallèle avec ce qui pourrait se passer aujourd'hui, parce que le risque de crue, évidemment, il est toujours là à Paris.
Il faut d'abord imaginer à quoi ressemble Paris. C'est-à-dire qu'il y a plus d'habitants intramuros, mais en revanche, il y a moins d'habitants en banlieue. La banlieue a été inondée, il y a à peu près 400 000 maisons qui ont été détruites, et c'est une époque où cette banlieue, c'est une banlieue, une partie en tout cas est une banlieue ouvrière. Vous avez aujourd'hui des témoignages sur notamment le Val-de-Marne, des photographies autour de Joinville-le-Pont par exemple, où on voit des quartiers inondés. Ces gens ont eu faim, ils ont eu froid, ce sont souvent des journaliers, des ouvriers en fait à la journée. D'ailleurs beaucoup vont partir pour aller louer leurs bras ailleurs, pour quitter, voilà. Les maisons se sont effondrées, donc la banlieue ça a été très dur. Sur Paris intramuros, on a d'abord des gens qui sont partis tout simplement. Il y a tout un récit glorieux de cette époque. En réalité quand on va un peu dans le détail, on voit d'abord que la ville est quasiment coupée d'une partie de ses liaisons avec les grandes ambassades européennes. Les horloges s'arrêtent à un moment donné parce que les horloges parisiennes fonctionnent à air comprimé et que l'usine d'air comprimé est inondée. Donc, par exemple, les ascenseurs s'arrêtent. Les premières lignes de métro qui viennent d'être construites sont inondées. Donc, vous avez un grand lac devant la gare Saint-Lazare. On est à plus d'un kilomètre de la Seine. On a ce grand lac. Il y a plusieurs images qui ont frappé les Parisiens. Les députés évacuent en barque. Les députés sont restés jusqu'au bout. On n'est pas si loin de la Commune, hein. On n'est pas si loin de la fuite de Gambetta en balle. Enfin, il y a quand même encore des choses qui restent. Ils sont restés. On a évidemment la girafe du zoo de Vincennes qui patauge dans l'eau avec l'ours polaire. Et on a surtout ce qu'on appelle les piou-piou de l'époque. C'est les appelés du contingent. Il y en a beaucoup, hein. Aujourd'hui, on n'a plus d'armée de conscription, mais à l'époque, il y en a. Ils sont là. Et puis, on a fait aussi venir les marins de Bretagne qui normalement font de la pêche à la morue et qui, là, sont venus pour aider les Parisiens. Et donc, on a des scènes... la vie a quand même été très difficile. Hein, très difficile. Et les dommages... Alors, les dommages, ce sont des dommages d'abord à la voirie. On voit beaucoup d'images de trous dans la chaussée qui sont en fait liés à des effondrements de sous-sol. On voit aussi beaucoup de pavés en bois. Parce qu'à l'époque, les rues sont pavées en bois qui flottent, et donc les rues détruites. On a quelques immeubles qui s'effondrent. On a des voies qui sont des voies ferrées inondées. Alors, on a aussi des images un peu surréalistes, hein, où on voit des gens en barque se balader dans les tunnels du métro, notamment à Montparnasse. Donc voilà cette
image. Et puis probablement les rez-de-chaussée, évidemment, inondés, les magasins.
Surtout les gens qui marchent en fait sur des espèces de planches de bois.
Un peu comme la Alta à Venise, au
exactement,
fond.
Laurent Blanc.
Donc on se dit, au fond, cette année, 2023, on est bien loin de 1910, s'il y avait une grande crue, un peu comme les gens de 1910, on se dit, non, Paris, forcément, devrait être protégé. Or, c'est pas le cas. Et vous nous expliquez, Magali Reguedzazid, qu'au fond, Paris est aujourd'hui plus vulnérable encore qu'en 1910.
En tout cas, pas de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aurait une panne technologique. On aurait une gigantesque panne parce que la ville...
On aurait ou on aura parce que...
On aura. Alors la question n'est plus de savoir si, c'est de savoir quand. Il y a deux choses à dire. D'abord, aujourd'hui, la Seine, quand on la regarde, son cours est régularisé. On parle de la crue de 1910, mais on oublie les gigantesques étiages du début du siècle où on voit des Parisiens, alors les mêmes, hein, elles ont des robes longues, ils sont en redingote, ils vont pique-niquer dans l'île de la Seine à l'été. Et effectivement, le cours d'eau a été régularisé par la construction des fameux barrages dont il est question dans l'extrait, qui commence, la question se pose dans les années 20-30, et puis ils sont construits dans l'après-guerre, enfin l'après-deuxième guerre mondiale.
Il y a un certain nombre de bassins en amont
qui permettent
de délester au fond.
Exactement, donc en fait ils ont deux fonctions. On les remplit d'eau à l'hiver pour relâcher l'eau l'été en cas de basse eau, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'étiage. En tout cas qu'on ne les voit pas, parce que cette eau de la Seine, elle sert en particulier à abreuver les Parisiens, et les Franciliens plus largement. Et puis, en cas de crue, le fait de les remplir abaisse la ligne d'eau d'à peu près 70 centimètres.
Mais ça ne va pas suffire à éviter la catastrophe.
Pour vous donner une idée, la crue de la Seine, c'est 8,63 m. Les dommages arrivent à peu près à 6,50 m. Une crue de la Seine, c'est une chance sur 100 par an d'arriver dans un climat non modifié par l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas encore regardé vraiment les évolutions par rapport au changement climatique. Les études sont toujours en cours. La crue de 1955, c'est une crue qui a une chance sur 50 par an d'arriver. Elle était à 7,50 m. Mmh. Les barrages enlèvent 70 cm. C'est-à-dire qu'en gros, on est à peu près autour de 8 mètres. Donc c'est très très important. Mais c'est insuffisant. Et pourquoi on a cette transformation du risque? 1910, c'est à peu près 1 milliard d'euros. Alors là aussi, actuels. Alors là aussi, ces chiffres, ils ne veulent plus dire grand-chose. Il faudrait les actualiser. Mais enfin, Et aujourd'hui, une crue de la Seine, d'après les études de l'OCDE, dans les pires hypothèses, hein, on est à 30 milliards d'euros de dommages immédiats. Et on est en gros à 60 milliards de points de PIB perdus sur les 5 ans. Enfin, voilà, de coûts sur 5 ans. En gros, ce sont des catastrophes à 100 milliards.
Il faut se rendre compte qu'en effet, le sous-sol de Paris et de la banlieue parisienne aussi comporte beaucoup plus de choses qu'à l'époque de 1910.
Tout a changé d'abord parce qu'aujourd'hui, c'est la banlieue qui est très développée, y compris dans des zones inondables. Une crue de la Seine, c'est à peu près 5 millions de personnes qui seraient touchées directement ou indirectement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura des dégâts dans leur maison, mais par exemple, elles devront partir de chez elles parce qu'il n'y aura plus d'assainissement, parce qu'il n'y aura plus de courant. Donc, il ne suffit pas d'avoir les pieds dans l'eau pour être touché, voire même, quand vous avez les pieds dans l'eau, au moins, vous êtes considéré comme une victime, mais vous avez des gens qui vont habiter assez loin de la Seine, mais qui n'auront plus de transport, qui n'auront plus...
Et ça pendant plusieurs semaines, c'est ça qu'il faut avoir en tête.
Alors, la crue de 1910 a duré 7 semaines. Déjà, c'est très long. Après, ça peut être des crues qu'on appelle multiples. C'est-à-dire, il y a des pics. Donc voilà, ça peut être des crues aussi avec des plateaux. Donc ça, c'est ce qu'on a connu plutôt en 2018. Sachant que là, on parle vraiment de ces crues qui arrivent à l'hiver. Il y a d'autres formes de crues, mais qui sont l'été, qui sont un petit peu différentes.
Donc ça veut dire aussi que quand on nous annonce une crue, il faut partir, il ne faut pas attendre la crue.
C'est tout le problème, c'est-à-dire que on a aujourd'hui, et on ne pourra pas aller beaucoup plus loin, on est capable de prévoir l'évolution de l'eau à 48-72 heures. C'est énorme, c'est structurel au bassin, hein. C'est un bassin versant qui fait deux fois la taille de la Belgique, donc il y a des incertitudes multiples. En gros, on peut dire, voilà, demain ça monte ou ça descend, après-demain ça monte ou ça descend, après-après-demain, on ne sait pas trop. Sauf que, comme là, c'est une crue lente, évidemment, ça monte doucement. Donc, vous partez à 5 mètres à peu près, puis vous prenez 50 cm par jour. En fait, quand vous arrivez à 6 mètres où il faut se poser la question est-ce que je commence à partir ou pas, vous ne savez pas si on va atteindre les 7 mètres. Vous ne savez même pas si on va atteindre les 8 mètres et encore moins si on va arriver à ce fameux niveau au tout début de 1910. Et donc, évidemment, vous allez devoir lancer une partie des plans à l'aveugle. Et comme vous le disiez très justement tout à l'heure, la fragilité de la ville de Paris et de l'agglomération parisienne, de ces à peu près 11 millions de personnes qui composent l'agglomération, c'est que tout ce qui fait notre vie quotidienne et notre vie économique en Ile-de-France, et sous nos pieds. On a, sous la maison de la radio, il y a 8 niveaux enterrés. D'ailleurs, la maison de la radio n'est pas forcément l'endroit le plus sûr.
Pourtant, il faudra bien venir travailler.
Pas ici. Désolée de vous le dire, mais ça ne marchera pas ici. Parce qu'effectivement, on a donc tout ce qui fait en fait notre vie passe vraiment dans les sous-sols. Et donc, on va devoir soit fermer préventivement, c'est le cas par exemple du métro, soit déplacer, soit relocaliser, c'est ce qui se passerait sur les activités de la maison de la radio. Donc vous voyez, on a cette paralysie qui menace parce que nous sommes devenus extrêmement dépendants à ces réseaux dits critiques.
Est-ce qu'on sait faire alors ça, Magali Reguedzazit? Il y a des exercices régulièrement qui sont pratiqués. Est-ce qu'on est un petit peu prêt à éviter les 100 milliards que risque de coûter la crue ou pas?
La première chose, c'est qu'on n'est jamais prêt par rapport à un événement de ce type-là. C'est-à-dire que si on attend que ça... Enfin, si on se dit, voilà, prêt, ça veut dire zéro dommage, ça ne marchera pas. Une gestion de crise réussie, c'est d'abord une crue qui ne crée aucune victime. Or là, on a quand même des risques par rapport à des risques secondaires, par exemple les risques d'incendie. Il n'y a plus de courant, on met la bougie, on prend feu. Mmh. C'est aussi des déplacements de personnes fragiles, notamment les personnes âgées, notamment les personnes sans domicile fixe, les prisons, qui sont des lieux aussi, les hôpitaux avec des salles de réanimation ou des salles de malades non déplaçables qui sont situées en zone inondable. On a beaucoup d'étudiants qui sont des étudiants étrangers. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de populations à déplacer ou en tout cas à sécuriser. Donc pas de mort. Et puis ensuite, l'idée, c'est de se dire le moins de dommages possible, notamment à ces fameux réseaux qui doivent redémarrer très vite. Et justement, la gestion de crise réussie, c'est un redémarrage rapide. Alors pourquoi, et là aussi, c'est souvent, les gens sont souvent énervés quand on parle de la crue de la Seine en disant, mais attendez, il y en a toujours pour les Parisiens, c'est toujours
Paris. On va inonder le nord ou le sud de Paris, enfin plutôt le nord.
Le problème, c'est que Paris reste historiquement et géographiquement, au sens de la géographie contemporaine, le centre de l'organisation territoriale française. Et donc, vous avez ici les fonctions décisionnelles, les fonctions d'insertion dans la mondialisation, les sièges sociaux. Donc, il y a plein de choses qui restent à Paris, du fait de cette centralisation héritée, et qui fait que si jamais la métropole s'arrête, les répercussions sur le pays seront énormes. Je vous donne juste un exemple. Quand on a eu le Covid, on a bien vu que le confinement de l'Île-de-France avait des répercussions bien plus grandes que le confinement d'autres régions françaises. Je pense par exemple au Grand Est qui a été confiné au départ, hein, puisque l'épidémie, il y a eu vraiment une très grosse épidémie, ou à un moment aussi la région, les Alpes-Maritimes qui avaient été aussi reconfinées en partie. On voit bien que quand ça touche Paris, au sens agglomération parisienne, les répercussions sont décalées dans le temps et dans l'espace. Et ce qui était paradoxal au moment du Covid, c'est qu'alors que l'agglomération francilienne recommençait et redémarrait, vous aviez des territoires, des sous-traitants, des travailleurs, qui en fait continuaient à subir les conséquences en chaîne et les effets induits par cet effondrement, cette mise à l'arrêt du centre. Et là, on est vraiment dans des logiques géographiques.
Donc, il y a une logique à protéger la capitale.
Il y a une logique à protéger la capitale, avec là aussi des difficultés. C'est qu'en 1910, il y a eu aussi une crue très importante du Rhin. Et à l'époque, on était en Allemagne. Aujourd'hui, les collègues ont eu beaucoup de mal à reconstituer cette crue parce que les ponts, par exemple, sur lesquels étaient les repères de crue avaient été détruits et que les archives étaient reparties en Allemagne. Donc on a eu vraiment, on aurait des crues, on risque d'avoir des crues simultanées sur le Rhin, sur l'Est, sur la Seine, qui vont quand même jusqu'à Rouen-Wavre, où aujourd'hui on a à Rouen-Wavre des raffineries. On ne pourra plus balancer les déchets dans la Seine comme on l'a fait. Et puis vous avez les impacts aussi sur le nord de la France, parce que les systèmes pluviogènes peuvent être équivalents, et sur la Loire. Enfin, le Loiret en tout cas.
Donc il y a l'adaptation de la ville à la crue, aux inondations. Ça, c'est pour Paris, la région parisienne, mais il y a aussi tous les littoraux. On se souvient de l'ouragan Xynthia. À La Rochelle, la tempête Xynthia, à La Rochelle, il y a eu des aménagements urbains qui font que logiquement, au niveau de Xynthia, plus 20 cm, la ville ne serait pas submergée. Est-ce que vous avez le sentiment, Magali Reguet-Zazit, que sur toute la façade atlantique, on prend aussi la mesure de ces risques et que on adapte les villes de la manière qu'il convient?
Alors, jusqu'à présent, ce qu'on peut dire, c'est que on a un arsenal législatif très important qui permet de... On a vraiment des systèmes de prévention des risques de catastrophe et de gestion de crise qui sont très, très bien faits, pour le coup, même s'il y a plein de problèmes. Mais à chaque fois, la progression se fait après une catastrophe. Xynthia, typiquement...
On gagne toujours la guerre
C'est ça.
Précédente.
En fait, on apprend. Il faut une catastrophe pour qu'on se mobilise, parce que là aussi, il y a des aspects politiques, des dimensions symboliques, des dimensions de cohésion sociale, des demandes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui s'appelle le climat qui change à cause des activités humaines. Et donc là, on est, pour la première fois, on sait précisément ce qui va se passer, en tout cas dans les 20 prochaines années. Pourquoi je dis les 20 prochaines années? Parce que c'est le temps de l'aménagement ou du réaménagement du territoire. Et toute la question, c'est de comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui on peut effectivement anticiper un phénomène qui n'est pas réversible. C'est-à-dire que le climat qui change n'est pas plus réversible que le séisme. On ne peut pas l'empêcher. On peut stopper. On sait comment stopper ça, mais on ne peut pas revenir en arrière. Et donc, toute la question, c'est de se dire, connaissant les conséquences, ou en tout cas, pouvant anticiper les conséquences de ce climat qui change, qui vont venir s'additionner à la variabilité naturelle du climat. C'est la double peine, si vous voulez. Comment est-ce qu'on peut préparer notre territoire, sachant que ça va demander des changements absolument majeurs, y compris des arbitrages politiques à nouveau, sur quels sont les territoires qui sont habitables ou pas. Quand je dis habitable, c'est que on peut aujourd'hui, grâce à la technique, habiter partout. On a des bases au pôle sud. Simplement, ça n'a pas le même coût. Et donc, à un moment, et on revient à ce que je disais en tout début sur la mise en risque avec cette rationalité coût-bénéfice, on va se poser la question, est-ce que finalement, le coût de la protection, et quand je parle de coût de la protection, c'est pas que financier, c'est le coût humain, si, par exemple, la digue cède. Mm-hmm. Jusqu'où on monte les digues
et jusqu'où... Il faut déménager un certain nombre de personnes, selon vous ?
Alors, ce n'est pas selon moi, c'est qu'on peut maintenir des activités, mais jusqu'à quel prix ? Quel est le prix, en gros, que notre société est prête à payer pour la sécurité, sachant qu'à un moment, l'argent qu'on met pour protéger tel territoire, on ne le met pas pour d'autres. Pour la première fois dans notre pays, la question s'est posée après la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes. Où on s'est dit, est-ce qu'il faut reconstruire ou pas ? Et vous voyez là aussi que tous les territoires ne sont pas égaux. Est-ce qu'il faut reconstruire Paris ? La question ne se poserait même pas. Est-ce qu'il faut aller reconstruire des territoires à haut risque dans des zones où l'exposition va augmenter puisque l'aléa augmente et où les gens sont de plus en plus vulnérables ?
Vous parlez de reconstruire, vous ne parlez pas de demander à des gens de déménager.
C'est tout le sujet. C'est-à-dire, est-ce qu'on reconstruit ? Est-ce qu'on anticipe sur des territoires où ça ne s'est pas encore passé ?
Il y a beaucoup de territoires qui sont concernés ?
Oui, bien sûr. Tous les littoraux, enfin, une grande partie des littoraux de l'Atlantique, des côtes basses. On a aussi des problèmes sur les côtes hautes, parce qu'il y a des effondrements et des reculs. Je pense par exemple à Holt, toute la région de Holt, hein, qui sont sur des falaises, où on a des effondrements réguliers. On a évidemment, dans les Antilles, hein, des zones littorales qui sont extrêmement exposées aux surcôtes marines avec des cyclones dont on sait aujourd'hui que l'intensité, pas forcément la fréquence, l'intensité va augmenter, donc avec des phénomènes de submersion. On a aussi alors d'autres endroits, d'autres phénomènes, c'est ce qu'on appelle le retrait-gonflement des argiles. Aujourd'hui, une maison individuelle sur deux est concernée par ce phénomène. Après des sécheresses intenses, vous avez des maisons qui sont construites sur de l'argile qui va se contracter quand c'est sec et se regonfler quand c'est humide. Vous avez des fissures qui apparaissent.
Et, ça a été le cas aussi à Lille, c'est pour ça que l'immeuble s'est effondré.
On a ces phénomènes en fait de ce qu'on appelle des sécheresses géotechniques, hein, donc on a des fissures et là avec des risques d'effondrement. Donc si vous voulez, aujourd'hui on a deux exemples. On a ces chiliennes où on a dû, alors ça n'a rien à voir avec le changement climatique, on a dû évacuer, enfin exproprier des gens. Sur un quartier qui était exposé à un mouvement de terrain, on a eu après Xintia, à la Faute-sur-Mer, où des maisons n'ont pas été reconstruites.
Qui était derrière une digue, qui
précisément aujourd'hui, était dangereuse. Aujourd'hui, par exemple, la commune de Trèbes, qui a été totalement détruite, il y a des maisons qui ne sont pas reconstruites. La même chose sur la commune de Roquebilière. Donc vous voyez, aujourd'hui, on prend déjà des décisions, mais sur des territoires tout petits.
Donc on comprend que ça ne va pas assez vite. Et l'appel qui pourrait être fait aujourd'hui, ce serait que chacun regarde avec un œil différent le territoire où il vit, que ce soit des élus, comme des citoyens, comme des entrepreneurs.
Alors mon idée, ce n'est pas du tout de dire qu'il faut déplacer les gens comme ça, parce que psychologiquement, c'est terrible. C'est l'idée justement d'anticiper ces déplacements s'ils sont nécessaires pour accompagner les personnes, pour qu'elles puissent, les personnes et derrière les activités, les entrepreneurs, les collectivités. Parce que là aussi on oublie que détruire une maison, ça coûte aussi cher quasiment que de la construire.
En tout cas, il a fallu indemniser par exemple les personnes qui ont déménagé.
On est très mal indemnisé aujourd'hui. On est très mal indemnisé, on est indemnisé au prix du domaine et puis ensuite il faut détruire ces maisons parce que sinon c'est des friches. Ce sont des friches au même titre que le reste. Ça veut dire aussi que le traumatisme psychologique est terrible. Sachant qu'en plus, dans certains cas, vous avez subi une catastrophe. Donc, certaines personnes demandent à partir. Mais dans d'autres cas, c'est une catastrophe qui ne s'est pas produite, qui, s'il faut, ne se produira peut-être pas avant 50 ou 100 ans. Et ces maisons, c'est votre lieu de vie. Ce bâtiment, c'est votre entreprise. Cette école, c'est l'école où vous êtes allé petit. C'est l'école où vous avez investi pour retrouver une vie communale. Donc, si vous voulez, c'est très facile de dire sur un papier, on va déplacer des milliers de personnes. Il y a une dimension humaine et donc derrière, un accompagnement psychologique, financier et une anticipation.
Merci beaucoup Magali Reguedzazid de nous avoir comme ça permis de mieux saisir les enjeux liés aux risques dits naturels, mais dont on a bien compris qu'ils n'étaient pas seulement naturels mais bien humains. Pour aller plus loin, je recommande notamment votre dossier de la documentation photographique intitulé « Des hommes et des risques, menaces locales, menaces globales ». Il est synthétique et en même temps très complet. Et puis on peut signaler aussi chez ISTE Éditions l'ouvrage « Résilience, société et territoire face à l'incertitude, aux risques et aux catastrophes. Géographie à la carte, c'est Anne-Vanessa Prévost, Marie-Soisic Fraboulet, Mathieu Garrigou-Lagrange, Jean-Christophe Francis et Ruben Carmazine.